Tout de suite, Victor Hugo, Une force qui va, un programme d'archives proposé par Alban Penaranda. Première de deux nuits, en compagnie de Denis Podalydès et de Valérie Zenati.
Les nuits de France Culture. Philippe Garbi, Alban Penaranda, Mathilde Wagman, Hassan Mbechour, Virginie Mourtet, nous sommes ensemble jusqu'à 7h du matin.
Nuit, Victor Hugo. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans les nuits de France Culture pour une nuit consacrée à Victor Hugo. C'est à un comédien et à un metteur en scène que nous avons demandé d'ouvrir cette première des deux nuits que nous consacrons à Victor Hugo. À un comédien, à un metteur en scène et aussi à un amoureux de la littérature, réunis, ce qui sera plus commode, en une seule et même personne. Bonsoir Denis Podalydès.
Bonsoir Alban.
Merci d'avoir accepté notre invitation à venir parler de Victor Hugo. Vous êtes, on le sait, un grand lecteur, un amoureux de la littérature d'hier, mais aussi de celle d'aujourd'hui. Victor Hugo a-t-il été l'un des auteurs importants des lectures de votre enfance, de votre adolescence, l'un de vos auteurs de chevet ?
Oui, j'ai dû le connaître en même temps que j'ai appris à lire, je pense, parce que des poèmes qu'on apprenait par cœur à l'école, sous forme de récitation évidemment. Donc je pense que c'est comme ça, parce que sinon j'ai pas de souvenir premier, il a toujours été là. C'est comme un ciel, c'est un élément pour moi, une sorte d'élément qui fait partie de la nature elle-même. Il est aussi incontestable que un massif de montagne, le ciel lui-même, la nuit étoilée. Donc voilà, ça a commencé comme ça, je dirais. Le théâtre est arrivé curieusement assez tard. C'est Les Misérables. Je pense que je me suis fait raconter, puis j'ai dû voir un film. J'ai passé par le cinéma. Des Misérables, et là, je me souviens de l'émotion considérable qu'a suscité le personnage de Jean Valjean, de Cosette, de Fantine, de proche en proche de tous ces personnages-là, et le sentiment de la misère du monde, de la pauvreté, et qu'il fallait faire quelque chose. C'était sans doute empreint de religiosité, puisque j'étais à ce moment-là... J'étais à Versailles, donc je ne pouvais pas ne pas passer par l'église. J'ai dû relier Victor Hugo aussi probablement à l'église, avant que Hugo devienne l'église lui-même, la cathédrale. Je pense que si je délimite un peu les premiers moments, c'est ça. Et puis ces fantastiques cascades d'Alexandrin, quand j'ai découvert les grands poèmes. Je me rappelle, il y a un poème dont le nom ne me revient pas, Bivard, voilà, le grand poème Bivard, de la légende des siècles. Et après, je crois que j'ai tout pris sur la figure, d'année en année.
Vous avez lu Victor Hugo, vous l'avez joué, vous l'avez mis en scène, nous allons y venir. Poésie, roman, dessin, théâtre, sans prétendre dire ce qui fait l'unité d'une œuvre aussi monumentale, quelles en sont selon vous les constantes, les lignes de force, les fondements ? En somme, qu'est-ce qui fait Victor Hugo ?
C'est cet excès, ce trop, cet en trop. Il y a d'ailleurs un petit livre que j'ai revu ce matin, présenté par Michel Butor, qui était un magnifique écrivain, un fantastique pédagogue, et qui dit ceci, il en fait trop. Non seulement le théâtre, mais le roman, non seulement les invectives, mais les chansons, les petites épopées, mais le promontoire du songe, non seulement la littérature, mais le dessin, il finira par nous prendre toute la place. Il en dit trop. N'y a-t-il pas des secrets d'État qu'il vaut mieux ne pas ébruiter, des mots qu'il ne faut pas employer qu'entre compagnons de bamboche ? Il montre trop, dénonciation, impudeur, atteinte à la vie privée, etc. Il parle trop, ses phrases tentacules s'enlacent pleines de mots ventouses autour de siècles et d'empires, et tout cela toujours inachevé, bien sûr. Il écrit trop, les volumes s'accumulent, les éditions prolifèrent, fourmis de notes, on ne peut plus suivre. Il en veut trop, la solitude et la gloire, l'amour et la justice, la révolution, l'éducation, et puis quoi encore ? Il survit trop, ce n'est pas faux d'avoir voulu l'enterrer, le noyer, le couper en morceaux choisis, et les hélas et les dégoûts, une branche semble mourir, d'autres renaissent, une hydre. Il agit trop, il nous encombre, il nous malmène, il nous entraîne, il nous réveille nos rêves auxquels nous avions cru renoncer. À ce moment, nous nous sentons saisis par le pied. J'aime bien ce texte et c'est cette notion de trop. Effectivement, Hugo, pour moi, c'est toujours l'excès excessif. Et moi, qui suis très tempéré, qui me reproche même sûrement un manque d'excès, d'être toujours toujours en deçà de l'énergie de cet écrivain, eh bien, il me malmène et je n'en ai jamais fini. Donc, je replonge régulièrement dans les romans, dans les livres, dans les discours, aussi les discours à la chambre, dans les pièces de théâtre, dans les poèmes, dans tous les poèmes, dans les textes circonstanciels, je relisais les tables tournantes, etc. Donc, je suis tout le temps débordé par lui. C'est ce qui fait que j'ai besoin. Et vous voyez, je n'arrive pas à m'arrêter. Même une phrase sur Victor Hugo, je n'arrive pas à la finir.
Hugo a résisté au temps et à la modernité. Aujourd'hui encore, sans être vraiment lu, il est l'écrivain populaire par excellence. Ses engagements politiques, son exil et plus encore sans doute Les Misérables y sont pour quelque chose. Mais qui lit encore Les Misérables ? À la place qui est la vôtre, comédien, metteur en scène à la Comédie-Française, qui plus est, on sait aussi que vous avez souvent enregistré des lectures, Proust, Céline. D'une manière ou d'une autre, vous sentez-vous responsable de l'avenir des écrivains du passé, de leurs œuvres et donc de celles d'Hugo ?
Ah oui, ça tout à fait. Je dirais même que c'est ma ligne, c'est ma raison d'être artiste. Ma présence aussi à la Comédie-Française depuis bientôt 25 ans, ça ne veut pas dire que je suis tourné vers les œuvres du passé, mais je crois que les œuvres du passé, quand elles nous continuent à nous parler, c'est ça qui fait qu'elles sont des classiques, c'est les œuvres qui, aussi lointaines dans le passé soient-elles, s'entrechoquent avec le présent, semblent toujours entrer en résonance avec lui et semblent même concerner l'avenir. C'est une faculté très étrange, d'ailleurs très subversive de certaines œuvres du passé, qui ne sont pas en fait des œuvres dociles. C'est pas un passé monumental, patrimonial, dans lequel on se promènerait quand on se promène dans les galeries d'un musée. Ce sont souvent des choses qui vous renversent, qui vous font violence, qui parfois sont scandaleuses aussi, parce qu'elles sont exprimées dans un temps qui n'est plus le nôtre, avec des référents qui ne sont plus les nôtres, où vous découvrez soudain des choses qui vous paraissent très, très condamnables, notamment très excessives. C'est le cas de Victor Hugo. Et il faut qu'il y ait des personnes, il faut qu'il y ait aussi des écrivains d'ailleurs, qui soient, je pense beaucoup à mon ami Frédéric Boyer, qui est un écrivain tout à fait contemporain, et pour qui les œuvres du passé ne cessent, celles qui valent quelque chose. C'est pas parce que c'est une œuvre du passé qu'elle vaut quelque chose, c'est pas du tout ça. C'est le fait qu'elle explose dans le présent. Quelle est cette force de résonance est telle que ça suscite une explosion. Et c'est le cas pour moi de Victor Hugo, qui est une œuvre qui sans arrêt nous rappelle sur tous les plans, sur les plans politiques, sur le plan poétique, sur le plan du théâtre aussi, comment jouer Victor Hugo. C'est une question que les acteurs d'aujourd'hui, tels qu'ils sont formés, tels que j'ai été formé, c'est pas du tout simple. Victor Hugo, c'est écrit pour des acteurs d'une certaine époque, des acteurs romantiques, à la suite et dans le fantastique mouvement de découverte, c'était un vrai mouvement de découverte de Shakespeare. Donc comment aujourd'hui rendre compte de cette monumentalité, de cette énormité, cette puissance de souffle surtout, cette puissance tellurique.
Pour ces nuits, Victor Hugo, j'ai demandé à chacun de nos invités de lire un extrait d'une œuvre de leur choix. Vous avez choisi, Denis Podalydès, de nous lire un passage des Travailleurs de la mer. Nous vous écoutons et vous nous direz ensuite pourquoi vous avez choisi les Travailleurs de la mer. Peut-être pouvez-vous tout d'abord situer dans le roman l'extrait que vous allez nous lire ?
Alors, c'est dans la seconde partie, Gilliatt, Gilliatt le Malin, où ce personnage assez taciturne, assez sombre, qui est complètement tourné vers les choses, qui semble appartenir beaucoup plus à l'ordre des éléments géologiques et marins qu'à l'humanité même, ce personnage, à lui tout seul, va devoir désenclaver un navire, la Durande, et qui a suite à un naufrage est prise dans la terre, dans les roches, sur une sorte de petite île, et donc c'est un homme seul livré à la force des éléments, à la puissance des éléments, et qui va essayer d'agir contre elle pour essayer de d'extraire ce navire naufragé. Donc c'est un homme seul face aux éléments. Et il s'appelle Gilliatt. L'espèce d'abstraction où vivait Gilliatt s'augmentait de la matérialité même de ses occupations. La réalité, à haute dose, effare. Le labeur corporel, avec ses détails sans nombre, n'ôtait rien à la stupeur de se trouver là et de faire ce qu'il faisait. Ordinairement, la lassitude matérielle est un fil qui tire à terre, mais la singularité même de la besogne entreprise par Gilliatt le maintenait dans une sorte de région idéale et crépusculaire. Il lui semblait par moments donner des coups de marteau dans les nuages. Dans d'autres instants, il lui semblait que ses outils étaient des armes. Il avait le sentiment singulier d'une attaque latente qu'il réprimait ou qu'il prévenait. Tressé du funin, tiré d'une voile un fil de carret, arc-bouté deux madriers, s'étaient façonnés des machines de guerre. Les mille soins minutieux de ce sauvetage finissaient par ressembler à des précautions contre des agressions intelligentes, fort peu dissimulées et très transparentes. Gilliatt ne savait pas les mots qui rendent les idées, mais il percevait les idées. Il se sentait de moins en moins ouvrier et de plus en plus belluaire. Il était là comme dompteur. Il le comprenait presque. Élargissement étrange pour son esprit. En outre, il avait autour de lui, à perte de vue, l'immense songe du travail perdu. Voir manœuvrer dans l'insondable et dans l'illimité la diffusion des forces, rien n'est plus troublant. On cherche des buts. L'espace toujours en mouvement. L'eau infatigable. Les nuages qu'on dirait affairés, le vaste effort obscur, toute cette convulsion est un problème. Qu'est-ce que ce tremblement perpétuel fait? Que construisent ces rafales? Que bâtissent ces secousses, ces chocs, ces sanglots, ces hurlements? Qu'est-ce qu'ils créent? À quoi est occupé ce tumulte? Le flux et le reflux de ces questions est éternel comme la marée. Gilliatt, lui, savait ce qu'il faisait. Mais l'agitation de l'étendue l'obsédait confusément de son énigme. À son insu, mécaniquement, impérieusement, par pression et pénétration, sans autre résultat qu'un éblouissement inconscient et presque farouche, Gilliatt, rêveur, amalgamait à son propre travail le prodigieux travail inutile de la mer. Comment, en effet, ne pas subir et sonder, quand on est là, le mystère de l'effrayante onde laborieuse? Comment ne pas méditer, dans la mesure de ce qu'on a de méditation possible, la vacillation du flot, l'acharnement de l'écume, l'usure imperceptible du rocher, l'époumonnement insensé des quatre vents? Quelle terreur pour la pensée, le recommencement perpétuel, l'océan puits, les nuées d'Anaïde, toute cette peine pour rien. Pour rien, non, mais, ô inconnu, toi seul sais pourquoi.
Pourquoi avoir choisi les travailleurs de la mer, Denis Podalydès, et pourquoi cet extrait en particulier?
Les travailleurs de la mer, c'est un roman que je trouve d'une densité poétique quasi à l'équivalent de Homère, de Dante, de La recherche du temps perdu. Enfin, et puis alors, un entrechoc de pensées, d'idées, d'actions, de personnages, qui fait que c'est une sorte de forge, quoi. Je trouve, j'y puise une énergie particulière, l'énergie justement de travailler la matière de la langue. Quand j'apprends un rôle, que je fais une mise en scène, je m'identifie totalement à ce Gilliatt, aux prises avec l'océan, avec dans ce grand travail à la fois passionné et inutile. J'ai souvent l'impression qu'en art, il y a beaucoup d'inutilité. Mais c'est une utilité, curieusement, elle alimente l'énergie, elle est curieusement nécessaire. Et je suis devant ce roman et devant cette œuvre comme Gilliatt devant l'océan à essayer de mater tout simplement l'océan. Homme-océan, comme Hugo disait de Shakespeare d'ailleurs.
Vous êtes sensible aux voix, vous avez écrit un livre, Voix off, qui vous a d'ailleurs valu le prix Femina Essai en 2008, un livre autoportrait autour des voix, de la vôtre et de celle des autres. Comment imaginez-vous la voix de Victor Hugo? L'entendez-vous en le lisant?
En le lisant, curieusement, c'est le texte. Je pense que l'homme était peut-être moins tonitruant. Je crois que c'était un colosse, hein. Je crois qu'il avait de la force, il avait peut-être de la puissance vocale, mais moi je vois sa finesse aussi. C'est un homme qui manie des concepts, des idées, des métaphores qui sont extrêmement denses, extrêmement chargées en énergie, mais je pense que pour pouvoir manier, par exemple pour pouvoir donner une telle idée du travail à la fois abstrait et très concret de ce Gilliatt, pour mener de front, faire tenir des chevaux aussi... qui vont dans des directions aussi contradictoires, vers la plus haute abstraction, comme vers la concrétude la plus manifeste, eh bien, il faut un doigté extrême. C'est-à-dire, c'est un mélange pour moi d'extrême finesse et d'extrême puissance. Alors, je vois, je pense que c'était une voix qui avait des vitesses différentes, des timbres différents, qui était capable de la plus extrême douceur. Victor Hugo, je pense, parlant à un de ses petits enfants, devait être aussi doux qu'un chat. Et par exemple, quand il était à la tribune, à l'Assemblée nationale, vous savez, il y a un discours que j'adore. C'est un discours qui commence par dire « L'homme n'a qu'un seul ennemi, l'océan ». Et il fait une grande diatribe à la surprise générale de tous les députés contre l'océan. Et notamment contre une mer, la Manche. Tout ça pourquoi? Parce que un petit port normand lui a demandé d'intervenir pour le désensablement du port. Et il veut donc rassembler des capitaux pour désensabler ce port. Et son introduction, c'est cette espèce de grande diatribe contre l'océan. Alors, il paraît que même que les administrés de ce petit village n'en demandaient pas tant, étaient complètement débordés par cette vague. Voilà. Alors là, dans ces moments-là, Hugo, je pense, c'est une puissance. Il a quelque chose pour moi de Depardieu. Pour moi, Depardieu est aux acteurs, est une sorte de paysage. C'est pas simplement un acteur parmi d'autres. C'est le paysage sur lequel nous nous distinguons les uns et les autres. Et Hugo, c'est un paysage. C'est un massif montagneux sur lequel les autres écrivains aussi se disent c'est plus qu'une voix, quoi. C'est à la fois une voix, une gigantesque ombre, c'est le soleil. C'est-à-dire on est dans l'ombre, quoi, et puis on réapparaît à sa lumière. Donc voilà, vous voyez, je n'arrive jamais à en finir.
Vous avez joué Victor Hugo sur scène, Ruy Blas, deux fois, je crois, à quelques années d'intervalle, dont Salluste d'abord, et en 2002, dont César de Bazan, dans une mise en scène de Brigitte Jacques Wagemann. Comment, comédien, aborde-t-on une pièce d'Hugo, les mots d'Hugo ?
Alors c'est drôle parce que je l'ai d'abord abordé effectivement comme candidat au conservatoire, puisqu'une de mes scènes qui m'a valu, les professeurs me l'avaient dit, m'avait valu mon entrée au conservatoire, c'était précisément la première scène de Ruy Blas où je faisais Don Salluste. Et j'avais adoré cette cascade de rupture, en fait. Le personnage de Don Salluste est éveillé avant tout le monde. Il sait qu'il est chassé, il a perdu tout son pouvoir, chassé par la reine, et il dit « je vais me venger ». Donc c'est l'aube de la pièce, et c'est à l'aube. Je trouvais que ce texte était infiniment tranchant, et j'avais une certaine force dans le phrasé, alors j'étais capable, la violence que Salluste a en lui, cette amertume gigantesque, Hugo le manifeste dans la construction très haché de ses vers. Donc c'est un peu un exercice un peu virtuose. Donc j'avais l'impression de manier comme ça des lames avec ce texte. Et puis donc j'ai ensuite rejoué ce personnage de Salluste à ma sortie du conservatoire dans une mise en scène de Nicolas Lormeau, avec le grand plaisir, moi qui me trouvait jeune homme très inoffensif, de jouer le rôle d'un méchant. Et toujours avec ce plaisir du phrasé. C'est un auteur qui m'a comblé de ce point de vue-là. Et alors, des années plus tard, à la Comédie Française, Brigitte, effectivement, m'avait proposé de jouer Don César de Bazan, l'opposé même de Salluste, enfin son alter ego solaire, qui est aussi généreux que Salluste, et vil, mesquin, méchant, amer, et tout en générosité comique. Et donc là, j'ai eu alors là une sorte de plaisir capiteux, comme si j'avais bu un vin jusqu'à tomber par terre d'ivresse. J'en étais enivré de ce personnage-là, de Don César de Bazan. Je pense qu'il y a seuls les personnages shakespeariens sont capables d'offrir à l'acteur qu'il joue un tel plaisir.
En 2014, vous avez d'ailleurs mis en scène Lucrèce Borgia. Qu'est-ce qui pousse à monter une pièce de Victor Hugo au XXIe siècle et Lucrèce Borgia en particulier ?
Lucrèce Borgia, je pense, Muriel Mayette m'avait demandé de le monter parce que un personnage féminin tel qu'on en a peu, dans le moment où on entrait dans toute cette période qui est, je pense, historique, très très importante, où la femme a complètement changé de position dans la société, où Lucrèce Borgia est une héroïne qui en plus est à la fois un personnage maudit et un personnage béni, qui est à la fois mère et tueuse, qui est un personnage, ces infinis paradoxes que Hugo aime traiter. Donc je pense que c'est une des dimensions très importantes du personnage. Et moi j'ai c'était une commande au départ, c'était, et puis je me suis plongé et j'avais le souvenir de la Lucrèce Borgia de Vitesse qui était taillée dans l'étoffe même de la nuit. Voilà, c'est ça, c'était l'expression. Et de plonger dans cette pièce qui est un océan de noirceur dans lequel tombe la goutte de lait d'un amour maternel, ce qu'est Lucrèce, cet autre paradoxe qu'une goutte de lait peut teinter un océan de ténèbres, peut suffire à lui redonner de la clarté. J'ai plongé dans ce drame et la restitution onirique de ce drame. C'est-à-dire pour ça, j'étais tellement attiré par la puissance onirique de la pièce que j'ai tout de suite d'abord voulu confier le rôle à un acteur, Guillaume Gallienne, qui pour moi était un paradoxe vivant, homme-femme, et qui pouvait avoir à la fois la puissance, une puissance monstrueuse, et une sorte de grâce extrêmement fragile. Je voyais ce personnage de Lucrèce comme une chimère. Et c'est pour ça que j'avais demandé à Guillaume de le jouer, et c'était magnifique. Et puis ensuite, j'ai fait une deuxième version, qui était avec Elsa Lepoivre, et là où la dimension maternelle reprenait peut-être toute sa force. Et donc j'étais très heureux de ces doubles pour moi, c'est comme si j'avais fait... Parce que finalement, le spectacle est à peu près le même, mais avec des polarités différentes. Et ça a été pour moi une expérience absolument magnifique. Et puis il y a eu Eric Ruff dans le personnage de Don Alphonse qui a donné une puissance à ce personnage. Enfin, j'ai eu le sentiment de, pour la première fois, de dominer un peu l'énergie fantastique, d'avoir trouvé les outils et les acteurs pour pouvoir manier cette quantité d'énergie.
Vous évoquiez Antoine Vitesse, quelque part dans les archives programmées dans nos nuits, on entendra sa voix tempétant contre ceux qui ringardisaient Victor Hugo, parlant à propos d'Hugo d'une emphase, d'un pathos, au bon sens du terme, dans lesquels Vitesse voyait, lui, une immense passion.
Absolument, ben, c'est ce que disait Butor, c'est trop, il est trop. Il y a eu une image très officielle de Victor Hugo qui l'a beaucoup desservi, qui a été utilisée à des fins politiques, pour c'est une sorte d'incarnation de la République, qui fait que Victor Hugo devenait un écrivain pour même pour petite classe, pour faire des dictées, pour faire des récitations. Alors on a tous appris les poèmes d'Aville, qui est, enfin, quantité de poèmes sont devenus un peu des rengaines, tout simplement. On a énormément édulcoré Victor Hugo, comme ça, comme on fait toujours. Quand un écrivain devient un écrivain officiel, il perd quasiment la moitié de sa force. Et d'ailleurs, il vaut mieux, on préfère oublier son côté subversif, le côté fou. En fait, le goût de la cruauté qu'il y a chez Victor Hugo, par exemple, ça, c'est très très étonnant. C'est un des plus profonds humanistes, et il y a chez lui une attirance pour la peur, pour l'effroi, pour la monstruosité. Je pourrais lire des extraits de L'homme qui rit, comment le personnage enfant, où il évoque les comprachicos qui défigurent les enfants pour ensuite en faire des petits mendiants qui rapportent de l'argent. Et alors, il y a un effroi devant ça, et dans cet effroi, il y a aussi une attirance. Il plonge tout droit dans l'ombre, dans la pénombre, dans les forces inconscientes. Il y a chez lui un écrivain qui voit venir, comme s'il le voyait venir du fond de la nuit, des époques d'art dont il n'est pas contemporain, comme le surréalisme, où il se fait psychanalyste aussi. Il identifie parfaitement l'inconscient, comme force agissante. Il s'intéresse beaucoup au sommeil, au songe dans le sommeil. Il flirte même avec l'ésotérisme quand il est là-bas à Guernesey. Donc tout ça fait qu'on a réduit Victor Hugo et que des gens comme Vitesse ont compris, notamment à un moment où le jeu réaliste l'emportait, où la mise en scène réaliste l'emportait, qu'un écrivain comme Victor Hugo permettait aux scènes, aux acteurs, aux metteurs en scène et au public de prendre un grand coup d'antinaturalisme et de plonger à fond dans la passion pure. Oui, effectivement, c'est un théâtre des passions, donc c'est plus proche d'Antonin Artaud que proche de Racine, ça c'est sûr.
Comment pense-t-on l'espace scénique d'une pièce de Victor Hugo? Comment pense-t-on les déplacements, le mouvement, la lumière qui éclaire les comédiens et l'action? L'abondance des didascalies dans ces textes, est-ce qu'il faut s'y référer scrupuleusement ou au contraire s'en détacher?
Alors, un ami, justement, de la Comédie française, Nicolas Lormeau, a fait une mise en scène purement didascalique. C'est-à-dire, il n'y avait rien, c'était dans un bifrontal, c'était Hernani, et il a fait dire les didascalies par une voix off, ce qui est une très belle idée, parce que ces didascalies, elles sont si belles, si poétiques, elles sont absolument antidescriptives. Si on les prend, ils jettent un regard de foudre pour les acteurs. Si vous incarnez à la lettre les didascalies, d'abord vous faites un décor qui va vous coûter tout le budget d'une année. Ça fourmille d'objets, d'éléments, de choses. C'est-à-dire, en fait, c'est tout ce que Hugo voit en songe. Si on fait on suit ça à la lettre de manière réaliste, évidemment, on tombe dans une impasse. Enfin, on ne peut même pas y arriver. Et alors, se servir des didascalies, c'est très intéressant pour essayer d'avoir l'œil de Victor Hugo. Comment Hugo, dans la salle, on sait qu'il mettait en scène ses propres œuvres d'ailleurs. Il n'avait pas un concept de la mise en scène tel que nous l'avons nous, mais il en était le régisseur. Et donc, il devait voir la scène. C'est très beau parce qu'on le regarde à travers son imagination. En fait, ces didascalies, c'est ce qu'elles nous demandent, c'est inventer l'impossible. Elles nous disent ça. Faites-nous voir l'océan, faites-nous voir la nuit de l'âme, faites-nous voir l'horreur, mais l'horreur avec un grand H. Donc, c'est-à-dire, en fait, c'est comme les grands auteurs, comme Shakespeare, ils vous mettent devant la scène comme devant une caverne obscure. Et de cette caverne obscure, il faut faire surgir dans la tête des gens, pas forcément par des trappes, mais il faut faire surgir dans la tête des images qui dépassent tout ce qu'on peut représenter. Donc, c'est pour ça que moi, d'abord, c'est la nuit. À ce moment-là, je commence par tout éteindre.
À quoi tient la modernité du texte de Victor Hugo, de sa langue?
Le côté indomptable de la langue, la puissance de la langue, le fait que ça demande à l'acteur des efforts de construction, des efforts de diction, des efforts d'imagination, des efforts d'incarnation. Ça demande tout ça. Et rien que ce travail-là, ça vous met au présent. C'est-à-dire déjà d'essayer de le lire et de le transmettre, ça vous demande d'être ici, hic et nunc, ici et là maintenant, bien sur vos appuis, bien dans votre voix, et d'être tout à fait conscient que vous avez affaire à une énergie considérable et qu'il va falloir la transmettre. Donc c'est cette espèce de rappel à l'ordre comme ça.
D'ailleurs, je n'ai jamais écrit de drame historique, il parlait d'un passé ressuscité au profit du présent.
C'est exactement ce qu'on disait. Hugo n'avait que faire du passé en lui-même. D'ailleurs, quand il prend Lucrèce Borgia, il lit deux livres, je crois, deux ou trois, pas plus, et ça lui suffit. C'est-à-dire, il ne fait pas une enquête d'historien. Et là, à partir de là, il invente. Il prend deux, trois choses, il invente des personnages. Il est comme Shakespeare. Shakespeare s'empare des données historiques, pas du tout pour faire œuvre d'historien, mais pour faire œuvre présente. Parce que aussi, Hugo, il fait ça parce qu'il doit contourner la censure. Parce qu'il est hanté par des thèmes qu'il ne peut pas développer tel quel. Sinon, il aurait fait un théâtre contemporain, en costume contemporain de son temps. Mais ça, la censure lui... Et même, il avait beau faire des drames historiques pour essayer de contourner la censure, à lui tomber dessus.
Ce qu'on a oublié de dire, peut-être aussi, c'est que par la faute de la photographie, on a éternellement en nous l'image d'un Victor Hugo à barbe blanche, mais le dramaturge Hugo est essentiellement un jeune homme.
Oui.
puisqu'il écrit Hernani à peine plus de 30 ans. Mais il écrit Le Roi s'amuse et Lucrèce Borgia. Êtes-vous face au texte d'un jeune auteur, justement?
Oui, ben, il faut faire ça. Je pense qu'il faut faire ça. Il faut toujours penser, quand on travaille les classiques, qu'ils ne l'ont... Ils sont devenus des classiques. Ils sont devenus par l'usage. Et être classique, en soi, c'est rien. C'est pas une valeur. C'est pas parce que c'est un classique qu'il faut se prosterner. Au contraire, être classique, ça veut dire qu'il faut penser que c'était des œuvres d'avant-garde. Toute œuvre classique a d'abord été une œuvre tranchante avec son époque, scandaleuse souvent, illisible, irreprésentable, qui a suscité des débats, des haines violentes. La bataille d'Hernani, dont Hugo, faut se resituer. Si vous comprenez ça, il faut... Alors évidemment, ces pièces-là ont d'une certaine manière, à moins de légèrement perdu cette... puissance subversive, mais elle le garde, je pense, elle la garde entièrement, d'ailleurs les acteurs le ressentent, dans le travail qu'elle leur demande. Et au public, j'ai remarqué que beaucoup de gens, finalement, sont à la fois très séduits et en même temps pensent que c'est trop. C'est trop, c'est pas... On peut... Non, on devrait pas. Il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose qui les glace tout autant que ça les séduit. Et, mais c'est précisément là que c'est intéressant. Il faut qu'il y ait quelques images qui résistent très fortement dans la mémoire du spectateur, même s'il s'ennuie à d'autres moments, même s'il va dire « Oh, finalement, ce théâtre-là, c'est trop bavard, c'est trop romanesque, c'est du drame, du mélodrame. » Et néanmoins, même celui-là, qui n'aura malheureusement, pour lui, à mon avis, pas assez d'appétit, il faut beaucoup d'appétit. Il faut aimer le théâtre, il faut aimer les charges fortes, faut les doses d'explosifs, faut aimer que ça vous saute à la figure. Et, mais même celui-là, il faudrait qu'il y ait deux, trois choses qui soient passées. Eh bien, il y a toujours de quoi. Dans toutes les pièces, d'ailleurs. Je pense même dans les œuvres comiques, il y a des moments très, très, très noirs, très subversifs, entre la cruauté et le... Vous savez, c'est qui nous fait toucher ces zones de nous-mêmes où on se dit, mais là, il y a quelque chose de criminel en moi, il y a quelque chose qui est hors, qui n'est pas bien du tout.
Denis Podalydès, merci beaucoup. Nous allons écouter les archives qui composent la première partie de cette première nuit consacrée à Victor Hugo. Dans un instant, Avez-vous lu Victor Hugo avec Florence Delay, première d'une série de 6 lectures publiques au Palais de Chaillot en 1985. Les deux premiers épisodes des Misérables dans une adaptation d'Hélène Bleskin réalisée par François Christophe diffusée en 2012. Puis le contexte historique du roman de Victor Hugo 93. Quatrième partie de Victor Hugo, Le combat des ténèbres, une série de Philippe Nemo. Dans l'autre scène où les vivants et les dieux en 1979. Nous retrouverons Valérie Zenati dans un peu plus de 3 heures pour la deuxième partie de cette nuit consacrée à Victor Hugo. Et vous, Denis Podalydès, nous vous retrouverons juste avant la fin de cette nuit. À tout à l'heure.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique.
En 1985, la mort de Victor Hugo avait un siècle. Au lendemain de la mort d'Hugo, Ernest Renan écrivait dans Le Figaro. Que se passera-t-il en 1985 quand le centenaire de Victor Hugo sera célébré à son tour? Devant les obscurités d'un avenir qui nous apparaît fermé de toutes parts, qui oserait le dire? Édition. Rééditions, publications diverses, représentations, expositions, colloques, manifestations de toutes sortes, émissions de télévision et de radio. En 1985, le centenaire de la mort de Victor Hugo fut célébré comme il devait l'être. France Culture et le Théâtre National de Chaillot proposaient, présentés par Antoine Vitez et Marie-Étienne, une série de 6 lectures publiques d'extraits de l'œuvre d'Hugo, choisies et lues par différentes personnalités. Parmi elles, celle qui avait été à l'écran, la Jeanne d'Arc de Robert Bresson, qui n'était pas encore académicienne, mais avait déjà beaucoup écrit et aussi beaucoup traduit, Florence Delay. On la retrouve ici à Chaillot, où, en 1985, Vitez montait Hernani et Lucrèce Borgia. Avez-vous lu Hugo, avec Florence Delay, diffusée la première fois, le 29 avril 1985, sur France Culture.
Avez-vous lu Victor Hugo ?
Une production du Théâtre National de Chaillot et de France Culture.
Avez-vous lu Victor Hugo ? Cette série de lectures constituera une anthologie arbitraire et fragmentaire de l'œuvre immense du poète.
Aujourd'hui, l'anthologie fragmentaire de Florence Delay.
La voix de qui va lire nous intéressera autant que son choix, et peu importe qu'il ne soit pas diseur de profession. Bien au contraire. Comment lit-on pour ses amis ? Pour le plaisir de faire connaître ce qu'on aime. Ce sera là aussi le sujet de cette expérience. Quant au fond, nous plaçons toute l'affaire sous un titre qui est une question. Avez-vous lu Victor Hugo ? Ce fut le titre d'un livre qu'Aragon écrivit en 1952, en un temps où Victor Hugo, sacrifié au culte bourgeois du bon sens, subissait une sorte de disgrâce dans les lettres. La question est toujours urgente. En effet, on connaît Victor Hugo, mais on ne l'a pas lu. Situation étrange, on dirait que la France a honte de son poète. Elle se reconnaît dans le prétendu cartésianisme dont elle fait commerce et que le monde entier lui attribue volontiers, laissant aux autres les valeurs imaginaires, le rêve, la bouche d'ombre. Cela, évidemment, est faux, de Rabelais à nos jours. Et pourtant, cela dure. Mais au profit de quoi ? De qui ? Quelle France a envie de se reconnaître dans le miroir Hugo ?
Antoine Vitez.
J'ai lu Choses vues et Les Misérables, et c'est à peu près tout, car je ne peux pas lire Hugo sans le dire. D'abord, je l'ai appris par cœur pour ce merveilleux exercice qu'on nous imposait alors au lycée, la récitation. Depuis, je ne peux en faire la lecture des yeux seuls. Avec lui, j'ai découvert ma bouche. Ce n'était pas encore la bouche des baisers, on était en cinquième, mais celle des leçons et du bavardage. Et voilà que soudain, on était doté d'une voix qui pouvait monter et descendre à volonté sur une partition de mots qui semblait venir de notre tréfonds puisqu'il sortait de notre bouche. Tout cela prit une telle importance qu'avec les filles qui partageaient le même plaisir, confondant la poésie et le théâtre, nous décidâmes de monter un poème de la légende des siècles. En redisant Emerio, je vois s'avancer Annick, en M, duc de Bavière, Liliane, en Dreux de Montpellier, Nadine surtout, dans son teint clair et son costume noir, choisi pour le rôle titre. Alors, pour jouer le vieil empereur, j'allais louer, sans doute avec ma mère, une haute couronne, une barbe fleurie et une large épée aux éclairs meurtriers qui, lorsque je l'ai brandie avec un âpre accent plein de sourdes nuées, a fait trembler la boule du monde sur ma couronne. Mes preux en avaient les larmes aux yeux. C'était le début de la chevalerie et du grand sentiment auquel Hugo ne cesse de me reconduire quand le monde se fait petit. Florence Delay.
Mercredi 13 février, 18h30. Théâtre National de Chaillot, Grand Foyer.
Florence Delay lit, réponse à un acte d'accusation, Les Contemplations, livre 1. Les Orientales, incipit recueilli par Pierre-Henri pour l'ouverture de Hugo Symphonie. Poème à la mort de Léopoldine, Les Contemplations, livre 4. Emerio, la légende des siècles.
Le Hugo d'aujourd'hui ne vous surprendra guère. Nulle découverte, au contraire. De la reconnaissance. Les poèmes que je lirai sont parmi les plus connus. Ils appartiennent à la jeunesse, à la mémoire de tous. Du moins, je l'espère. Les Contemplations, Paris 1834, réponse à un acte d'accusation. Donc, c'est moi qui suis l'ogre et le bouc émissaire. Dans ce chaos du siècle où votre cœur se serre, j'ai foulé le bon goût et l'ancien vers François, sous mes pieds, et hideux, j'ai dit à l'ombre « soit ». Et l'ombre fut. Voilà votre réquisitoire. Langue, tragédie, art, dogme, conservatoire, toute cette clarté s'est éteinte et je suis le responsable, et j'ai vidé l'urne des nuits. De la chute de tout, je suis la pioche inepte. C'est votre point de vue ? Eh bien, soit, je l'accepte. C'est moi que votre prose en colère a choisi. Vous me criez raca, moi je vous dis merci. Cette marche du temps qui ne sort d'une église que pour entrer dans l'autre et qui se civilise, ces grandes questions d'art et de liberté, voyons-les, j'y consens, par le moindre côté et par le petit bout de la lorgnette. En somme, j'en conviens, oui, je suis cet abominable homme. Et quoiqu'en vérité je pense avoir commis d'autres crimes encore que vous avez omis, avoir un peu touché les questions obscures, avoir sondé les mots, avoir cherché les cures, de la vieille ânerie insulter les vieux bas, secouer le passé du haut jusqu'en bas et saccager le fond tout autant que la forme, je me borne à ceci, je suis ce monstre énorme, je suis le démagogue horrible et débordé et le dévastateur du vieil ABCD. Causons. Quand je sortis du collège, du thème, des vers latins, farouches, espèces d'enfants blêmes et graves, au front penchant, aux membres appauvris, quand, tâchant de comprendre et de juger, j'ouvris les yeux sur la nature et sur l'art, l'idiome, peuple et noblesse, était l'image du royaume. La poésie était la monarchie, un mot était un duc et pair, ou n'était qu'un grimaud. Les syllabes, pas plus que Paris et que Londres, ne se mêlaient, ainsi marchent sans se confondre, piétons et cavaliers traversant le pont neuf. La langue était l'état avant 89. Les mots, bien ou mal nés, vivaient parqués en castes. Les uns, nobles, hantant les Phèdres, les Jocastes, les Mérope, ayant le décorum pour loi, et montant à Versailles au carrosse du roi. Les autres, tas de gueux, drôles patibulaires, habitant les patois, quelques-uns aux galères, dans l'argot, dévoués à tous les genres bas. Déchirés en haillons dans les halles, sans bas, sans perruque, créé pour la prose et la farce, populace du style au fond de l'ombre éparse. Vilains, rustres, croquants, que Vaugelas, leur chef, dans le bagne lexique avait marqué du nef. N'exprimant que la vie abjecte et familière, ville, dégradée, flétrie, bourgeois, bon pour Molière. Racine regardait ses maraudes de travers. Si Corneille en trouvait un blotti dans son verre, il le gardait, trop grand pour dire qu'il s'en aille. Et Voltaire criait « Corneille s'en canaille !» Le bonhomme Corneille, humble, se tenait quoi ? Alors, brigand, je vins. Je m'écriai pourquoi ? Ceux-ci toujours devant, ceux-là toujours derrière. Et sur l'académie aïeul et douairière, cachant sous ses jupons les tropes effarées, et sur les bataillons d'Alexandrin Carré, je fis souffler un vent révolutionnaire. Je mis un bonnet rouge au vieux dictionnaire. Plus de mots sénateurs, plus de mots roturiers. Je fis une tempête au fond de l'encrier. Et je mêlai parmi les ombres débordées au peuple noir des mots, les seins blancs des idées. Et je dis, pas de mots où l'idée au vol pur ne puisse se poser tout humide d'azur. Discours affreux, syleps, hypallage, litote, frémir, je montai sur la borne Aristote et déclarai les mots égaux, libres, majeurs. Tous les envahisseurs et tous les ravageurs, tous ces tigres, les uns, les scythes et les daces, n'étaient que des toutous auprès de mes audaces. Je bondis hors du cercle et brisai le compas. Je nommai le cochon par son nom, pourquoi pas ? Guichardin a nommé le Borgia, Tacite le Vitellius. Fauve, implacable, explicite, j'ôtai du cou du chien stupéfait son collier d'épithète. Dans l'herbe à l'ombre du hallier, je fis fraterniser la vache et la génisse, l'une étant Margoton et l'autre Bérénice. Alors l'ode, embrassant Rabelais, s'énivra. Sur le sommet du Pinde, on dansait ça ira. Les neuf muses seins nus chantaient la carmagnole, l'emphase frissonna dans sa fraise espagnole, Jean Lagné épousa la bergère Myrtille. On entendit un roi dire « Quelle heure est-il ? » Je massacrai l'albâtre et la neige et l'ivoire, je retirai le jais de la prunelle noire, et j'osai dire au bras, soit blanc tout simplement, Je violai du verre le cadavre fumant. J'y fis entrer le chiffre, ô terreur, Mithridate, du siège de Sisyque eût pu citer la date. Jour d'effroi, les laïs devinrent des catins. Force mots paraissent au peigné tous les matins, et de Louis XIV ayant gardé l'allure, portait encore perruque. À cette chevelure, la révolution, du haut de son beffroi, cria « Transforme-toi, c'est l'heure, remplis-toi de l'âme de ces mots que tu tiens prisonnière. » Et la perruque alors rugit et fut crinière. Liberté. C'est ainsi qu'en nos rébellions, avec des épagneuls, nous fîmes des lions. Et que sous l'ouragan maudit que nous soufflâmes, toutes sortes de mots se couvrirent de flammes. J'affichai sur le monde des proclamations. On y lisait « Il faut que nous en finissions. Au panier les bourres, les batteux, les brossettes. À la pensée humaine, ils ont mis les poussettes. Aux armes, pros et fers, formez vos bataillons. Voyez où l'on en est, la strophe à des baillons. L'ode à les fers aux pieds, le drame est en cellule. Sur le racine mort, le campistron pullule. » Boileau grinça des dents. Je lui dis ci-devant « Silence. » Et je criai dans la foudre et le vent « Guerre à la rhétorique et paix à la syntaxe. » Et tout 93 éclata. Sur leur axe, on vit trembler l'athos, l'ithos et le pathos. Les matassins lâchant pour Sognac et Catos, poursuivant du Marsay dans leur hideux bastringue, des ondes du Permès emplir leur seringue. La syllabe, enjambant la loi qui la tria, le substantif manant, le verbe paria, accoururent, on but l'horreur jusqu'à la lie, on les vit déterrer le songe d'Athalie. Ils jetèrent au vent les cendres du récit, de Théramène, et l'astre institut s'obscurcit. Oui, de l'ancien régime, ils ont fait table rase, et j'ai battu des mains, buveur du sang des phrases, quand j'ai vu, par la strophe écumante et disant, les choses dans un style énorme et rugissant, l'art poétique pris au collet dans la rue. Et quand j'ai vu, parmi la foule qui se rue, pendre par tous les mots que le bon goût proscrit, la lettre aristocrate à la lanterne esprit. Oui, je suis ce Danton, je suis ce Robespierre. J'ai, contre le mot noble à la longue rapière, insurgé le vocable ignoble, son valet, et j'ai, sur Danjou mort, égorgé Richelet. Oui, c'est vrai, ce sont là quelques-uns de mes crimes. J'ai pris et démoli la Bastille des rimes, j'ai fait plus. J'ai brisé tous les carcans de fer qui liaient le mot « peuple » et tiré de l'enfer tous les vieux mots damnés, légions sépulcrales. J'ai de la périphrase écrasé les spirales et mêlé, confondu, nivelé sous le ciel l'alphabet, sombre tour qui naquit de Babel. Et je n'ignorais pas que la main courroucée qui délivre le mot, délivre la pensée. L'unité des efforts de l'homme est la tribu. Tout est la même flèche et frappe au même but. Donc, j'en conviens, voilà, déduit en style honnête, plusieurs de mes forfaits, et j'apporte ma tête. Vous devez être vieux, par conséquent, papa, pour la dixième fois, j'en fais mea culpa. Oui, si bosé Dieu, c'est vrai, je suis athée. La langue était en ordre, auguste et poussetée, fleur de lys d'or, Tristan et Boileau, plafond bleu, les 40 fauteuils et le trône au milieu. Je l'ai troublé. Et j'ai, dans ce salon illustre, même un peu cassé tout. Le mot propre, ce rustre, n'était que caporal. Je l'ai fait colonel. J'ai fait un jacobin du pronom personnel. Du participe esclave à la tête blanchie, une hyène et du verbe une hydre d'anarchie. Vous tenez, le réum confit un thème, tenez. J'ai dit à la narine, aimez, tu n'es qu'un nez. J'ai dit au long fruit d'or, mais tu n'es qu'une poire. J'ai dit à Beaujolais, tu n'es qu'une mâchoire. J'ai dit au mot, soyez république, soyez. La fourmilière immense et travaillée, croyez, aimez, vivez, j'ai mis tout en branle, et morose, j'ai jeté le ver noble au chien noir de la prose. Et ce que je faisais, d'autres l'ont fait aussi, mieux que moi. Calliope, Euterpe, au ton transi, Polymnie, ont perdu leur gravité postiche. Nous faisons basculer la balance hémistiche. C'est vrai, maudissez-nous, le ver qui sur son front jadis portait toujours 12 plumes en rond et sans cesse sauter sur la double raquette qu'on nomme prosodie et qu'on nomme étiquette, rompt désormais la règle et trompe le ciseau et s'échappe, volant qui se change en oiseau, de la cage césure et fuit vers la ravine et vole dans les cieux, alouette divine. Tous les mots à présent planent dans la clarté. Les écrivains ont mis la langue en liberté. Et grâce à ces bandits, grâce à ces terroristes, le vrai, chassant l'essaim des pédagogues tristes, l'imagination tapageuse aux cent voix qui casse des carreaux dans l'esprit des bourgeois, la poésie au front triple qui rit, soupire et chante, raille et croit, que Plaute et que Shakespeare semaient l'un sur la plèbe et l'autre sur le mob, qui verse aux nations la sagesse de Job et la raison d'Horace à travers sa démence, qu'énivre de l'azur la frénésie immense et qui, folle sacrée aux regards éclatants, monte à l'éternité par les degrés du temps, la muse reparaît, nous reprend, nous ramène, se remet à pleurer sur la misère humaine, frappe et console, va du zénith au nadir, et fait sur tous les fronts reluire et resplendir son vol, tourbillon, lyre, ouragan d'étincelles, et ses millions d'yeux sur ses millions d'ailes. Le mouvement complète ainsi son action. Grâce à toi, progrès saint, la révolution vibre aujourd'hui dans l'air, dans la voix, dans le livre. Dans le mot palpitant, le lecteur la sent vivre. Elle crie, elle chante, elle enseigne, elle rit. Sa langue est déliée ainsi que son esprit. Elle est dans le roman, parlant tout bas aux femmes. Elle ouvre maintenant deux yeux où sont deux flammes, l'un sur le citoyen, l'autre sur le penseur. Elle prend par la main la liberté, sa sœur. Elle la fait dans tout homme entrer par tous les pores. Les préjugés formés comme les madrépores, du sombre entassement des abus sous les temps, se dissolvent au choc de tous les mots flottants, pleins de sa volonté, de son but, de son âme. Elle est la prose, elle est la vers, elle est le drame. Elle est l'expression, elle est le sentiment, lanterne dans la rue, étoile au firmament. Elle entre aux profondeurs du langage insondable. Elle souffle dans l'art, porte-voix formidable. Et c'est Dieu qui le veut, après avoir rempli de ses fiertés le peuple, effacé le vieux pli des fronts et relevé la foule dégradée, et s'être faite droit, elle se fait idée.
Réponse à un acte d'accusation, les contemplations.
Les orientales, 1828, les djinns. Mur, ville et port, asile de mort, mer grise où brise la brise tout d'or. Dans la plaine naît un bruit, c'est l'haleine de la nuit. Elle brame comme une âme qu'une flamme toujours suit. La voix plus haute semble un grelot. D'un nain qui saute, c'est le galop. Il fuit ses lances, puis en cadence, sur un pied dense, au bout d'un flot. La rumeur approche, l'écho la redit. C'est comme la cloche d'un couvent maudit. Comme un bruit de foule qui tonne et qui roule, et tantôt s'écroule, et tantôt grandit. Dieu, la voix sépulcrale, des djinns, quel bruit ils font. Fuyons sous la spirale de l'escalier profond. Déjà s'éteint ma lampe, et l'ombre de la rampe, qui le long du mur rampe, monte jusqu'au plafond. C'est l'essaim des djinns qui passent, et tourbillonnent en sifflant. Les ifs que leur vol fracasse, craquent comme un pain brûlant. Leur troupeau lourd et rapide, volant dans l'espace vide, semble un nuage livide, qui porte un éclair au flanc. Ils sont tout prêts, tenons fermés, cette salle où nous les narguons. Quel bruit dehors, hideuses armées, de vampires et de dragons. La poudre du soie décellée, ploie ainsi qu'une herbe mouillée, et la vieille porte rouillée tremble à déraciner ses gonds. Cris de l'enfer, voix qui hurle et qui pleure, l'horrible essaim poussé par l'aquilon, sans doute au ciel s'abat sur ma demeure. Le mur fléchit sous le noir bataillon, la maison crie et chancelle penchée, et l'on dirait que du sol arraché, ainsi qu'ils chassent une feuille séchée, le vent la roule avec leur tourbillon. Prophète, si ta main me sauve de ces impurs démons des soirs, j'irai prosterner mon front chauve devant tes sacrés encensoirs. Fais que sur ces portes fidèles meure leur souffle d'étincelles, et qu'en vain l'ongle de leurs ailes grince et crie à ces vitres noires. Ils sont passés, leurs cohortes s'envolent et fuient, et leurs pieds cessent de battre ma porte de leurs coups multipliés. L'air est plein d'un bruit de chaînes, et dans les forêts prochaines frissonnent tous les grands chênes sous leur vol de feu plié. De leurs ailes lointaines, le battement décroît, Si confus dans les plaines, si faible que l'on croit, ouïr la sauterelle, crier d'une voix grêle, ou pétiller la grêle sur le plomb d'un vieux toit. D'étranges syllabes nous viennent encore, ainsi des arabes quand sonne le cor. Un chant sur la grève, par instant s'élève, et l'enfant qui rêve fait des rêves d'or. Les djinns funèbres, fils du trépas, dans les ténèbres, pressent leurs pas. Leur essaim gronde, ainsi profonde, murmure une onde qu'on ne voit pas. Ce bruit vague qui s'endort, c'est la vague sur le bord, c'est la plainte presque éteinte d'une sainte pour un mort. On doute la nuit, j'écoute, tout fuit, tout passe, l'espace efface le bruit.
Les djinns, les orientales.
Je lirai maintenant quelques incipits recueillis par Pierre Henry, qui prépare sa Hugo Symphonie, et qui, préparant ses quatre grands mouvements de façon thématique, a recueilli une suite d'incipits et d'excipits d'entrée et de sortie de poèmes sur la femme, qu'il a intitulé Le sacre de la femme. Figurez-vous quelqu'un dans l'embarras, un homme. L'aurore apparaissait. Quelle aurore ? Un abîme. Madame, lui dit-il, avez-vous bien dormi ? Allons, dit-elle, encore, pourquoi ce front courbé ? Ô femme, qu'êtes-vous ? Ô femme, la pudeur, c'est la honte sacrée. N'est-ce pas, mon amour, que la nuit est bien lente ? Ne vous contentez pas, madame, d'être belle. Toi, dont la courbe au loin par le couchant doré, rayonne, et si tu veux, je serai ton amant. Fille de mon portier, les rimantes sonores, les femmes au sein nu éblouissent les yeux. Ô bonheur d'être aimé et félicité suprême. Ô belle, crains l'amour le plus petit des dieux. Comme le matin rit sur les roses en pleurs, elle me dit un soir en souriant, elle me dit, veux-tu que je reste en chemise ? Elle avait pris ce pli dans son âge enfantin. Elle, c'est le printemps, pluie et soleil, je l'aime. Elle est la terre, elle est la plaine, elle est le champ. Elle est petite, elle est bossue. Elle est seule, c'est lui, profitons du moment. Les doigts un peu sanglants d'une main élégante. Ses cheveux dans ses yeux et riant au travers. Et mon amour, toujours comme un chien à tes pieds. Et puis, faites de moi tout ce que vous voudrez. C'est bien plus que la terre et le ciel, c'est l'amour. Aujourd'hui, Galatée aux lascives épaules, quand elle se réveille en riant dans son lit, elle fait au milieu du jour son petit somme. Elle est toute petite, une duègne la garde. Elle dort, ses beaux yeux se rouvriront demain. Elle est fille de roi, mais sa ville est en cendres. Elle est gaie et pensive, elle nous fait songer. Elle était déchaussée, elle était décoiffée. Elle était pâle et pourtant rose. Belle à mettre un poète à court de métaphores. Et que ton fichu seul ait le droit de bâiller. C'est ainsi que Roland épousa la belle Aude. Si vous n'avez rien à me dire, si vous continuez d'être ainsi toute pâle, six amants, cela fait crier. Elle attend que je pleure et j'attends qu'elle dorme. Grâce, pardonne-moi, rappelle-moi, prends-moi. » Elle ayant l'air plus triste et lui l'air plus farouche. Elle de ma clémence et moi de son pardon. À peine eut-il parlé qu'elle avait disparu. Moi qui te chante et lui qui t'aime. Aimons, c'est à cela que je songe le soir. Aimons toujours, aimons encore. Alors elle me dit, pourquoi n'avez-vous pas ? Alors elle se dit, mais me tromperait-elle ?